Vous écoutez, on lit pour vous.
Les quatre fraudes en ligne les plus fréquentes. Un texte de Judith Lejeune paru le 1er octobre 2024 dans Urbania. Urbania et la Banque nationale s'unissent pour vous aider à adopter des habitudes en ligne plus sécuritaires afin de protéger vos données. Avez-vous déjà reçu un courriel vous informant que vous devez absolument mettre à jour vos comptes sur une de vos plateformes d'abonnement, sans quoi votre forfait sera résilié? Ou peut-être êtes-vous tombé déjà sur un site web frauduleux reprenant l'identité de votre agence de voyage préférée et vous incitant à acheter des billets à prix avantageux? De nos jours, les tentatives d'hameçonnage sont nombreuses et de plus en plus sophistiquées. Afin de mieux les repérer, nous avons répertorié, avec l'aide de deux experts en fraude et en cybersécurité de la Banque nationale, Danny Wang et Mathieu Castonguay, les quatre fraudes les plus fréquentes sur Internet. Parce qu'une personne avertie en vaut deux. L'hameçonnage. Il s'agit du stratagème le plus fréquent pour voler des renseignements personnels ou installer des logiciels malveillants sur un ordinateur. Que ce soit en invoquant un abonnement prétendument expiré, une connexion inhabituelle à votre compte de courriel ou à votre banque en ligne, ou en annonçant des rabais sur un produit convoité, les pirates utilisent de multiples tactiques afin de vous soutirer vos identifiants personnels ou vos numéros de carte de crédit, explique Danny Wang. Il est aussi fréquent de recevoir des textos prétextant un remboursement d'impôts, un compte en souffrance ou une contravention à payer. Nous observons une tendance croissante des personnes malveillantes à manipuler les outils de recherche pour faire apparaître de faux sites dans les résultats, comme de fausses pages de votre institution financière, afin de collecter vos identifiants de connexion, ajoute Mathieu Castonguay. L'hypertrucage par intelligence artificielle. Vous avez sûrement déjà vu le compte d'un de vos amis Facebook ou Instagram piraté ou copié afin de vanter les mérites d'une crypto-monnaie quelconque. Ça m'est même arrivé personnellement de voir mes photos ainsi que mon nom repris par un nouveau profil suggérant que je publiais désormais des photos coquines. Tout ça est généré par l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les cybercriminels. Les réseaux sociaux sont des sources d'informations où il faut constamment s'assurer de la véracité des messages. L'amélioration des technologies, surtout en matière d'intelligence artificielle, permet à des acteurs malveillants de reproduire des vidéos en superposant des images sur d'autres. On appelle ça de l'hypertrucage. Il est également possible de reproduire la voix d'une personne à partir d'échantillons. C'est ainsi que, pour mettre les victimes en confiance, un fraudeur peut avoir recours à l'image et à la voix de personnes qu'elles connaissent. On parle ici d'Internet, mais ça s'applique aussi à votre cellulaire. Ce n'est pas parce que vous voyez le nom de votre institution financière sur l'écran de votre téléphone qu'il s'agit forcément de votre conseiller. Pour en avoir le cœur net, contactez la personne en question avant de divulguer de quelconques informations personnelles, suggère Danny Wang. L'arnaque à l'investissement. Dans ce type d'arnaque, la personne malveillante prend plusieurs mois pour venir à ses fins. Avec le temps, la victime s'attache au fraudeur, qui l'oriente ensuite vers des sujets financiers comme l'investissement dans une crypto-monnaie supposément hyper rentable. Dans d'autres cas, le cybercriminel prétendra se trouver dans une situation de précarité afin de nous inciter à lui envoyer de l'argent. Une étape clé est de maintenir l'illusion que c'est la victime qui est en contrôle de la situation. De faux états de compte, des plateformes fictives de courtage, trading, ou des investissements dans des portefeuilles appartenant à l'escroc sont utilisés pour renforcer cette illusion, ajoute l'expert en cybercriminalité. Souvent, à cause d'une telle arnaque, la victime peut perdre jusqu'à des milliers de dollars, en plus de se sentir floué émotionnellement par le fraudeur. Les faux emplois. Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous postulez en ligne sur différents sites, il peut arriver que vous tombiez sur de fausses annonces ou encore que vous soyez recruté par un fraudeur usurpant l'identité d'un employeur potentiel. Selon que vous êtes un recruteur ou une personne à la recherche d'un emploi, le fraudeur peut vous envoyer un CV ou une offre d'emploi contenant une pièce jointe malveillante. Il peut alors prendre le contrôle de votre poste de travail, surveiller vos faits et gestes et visualiser vos mots de passe, explique Danny Wong. Il faut être très vigilant et vérifier l'identité de la personne ou l'offre d'emploi ailleurs sur le web avant d'ouvrir une pièce jointe, surtout lorsque celle-ci vous semble suspecte. Un truc. Se rappeler que les offres d'emploi se retrouvent souvent sur plusieurs plateformes à la fois. Par ailleurs, une petite vérification des antécédents de l'individu ou de l'entreprise peut également être pertinente afin d'être certain de ne pas se faire avoir. Évidemment, si vous croyez être en présence d'un fraudeur, un signalement aux autorités est la première chose à faire pour essayer de lui couper l'herbe sous le pied. Si jamais vous tombez dans le panneau, comme l'ont fait plusieurs des personnes qui témoignent dans le balado « Histoire de mauvais coup, la fraude avec Guillaume Gérard », contactez la police, signalez l'événement au Centre antifraude du Canada et avisez vos institutions bancaires et les différentes agences de crédit. C'était « Les quatre fraudes en ligne les plus fréquentes », un texte de Judith Lejeune, paru le 1er octobre 2024 dans Urbania.
Vivre avec la déception d'une promotion ratée. Un texte de France Dufresne, paru le 15 octobre 2024 dans La Presse. Témoignage de Jérôme, un lecteur. Le chef de ma division sera muté prochainement et j'ai naturellement pensé que ma candidature serait considérée pour son remplacement puisque je n'ai aucune concurrence à l'interne. Je connais l'organisation par cœur. Avec une expérience impressionnante, jalonnée de succès d'affaires sans précédent. Coup de théâtre. J'apprends qu'on a recruté quelqu'un de l'externe qui ne fait pas le poids, selon moi. À qui et comment puis-je parler de cette situation sans manquer de respect? Ne pas obtenir le poste convoité peut assurément être une expérience décevante. Mais il est crucial de transformer cette déception en une occasion de faire le point sur vos acquis pour mieux rebondir. La philosophie de recrutement pour un poste de gestion repose habituellement sur la culture organisationnelle et se résume en deux approches principales, le développement du talent à l'interne et l'acquisition du talent à l'externe. Comme employé, il vous revient de comprendre l'approche choisie par votre employeur pour un rôle en particulier, sachant que l'approche peut souvent être différente selon le rôle, et de vous positionner en conséquence. Je comprends votre mauvaise surprise, mais il ne faut pas rester dans l'amertume. Vous risqueriez de vous nuire plutôt que de vous aider. C'est pourquoi je vous suggère d'adopter une attitude résiliente qui vous guidera vers le prochain poste de vos rêves. Apprendre de ce qui s'est passé. Je vous encourage à discuter de façon ouverte et honnête avec votre gestionnaire, afin de comprendre les raisons pour lesquelles votre candidature n'a pas été considérée. Aborder le tout de façon constructive, c'est-à-dire pour comprendre comment continuer à vous développer et non pour essayer de faire changer la décision. Quels sont les points faibles de votre candidature? Quelle expérience vous manque-t-il? Quelles compétences ne sont pas assez développées? Cette conversation peut vous apporter des éléments précis à travailler pour améliorer vos compétences et votre performance. Bien qu'elle puisse être inconfortable, cette discussion vous aidera également à évaluer votre avenir dans l'organisation de manière plus objective et à établir le cheminement de carrière souhaité ou nécessaire jusqu'à la prochaine étape. Il est important de développer et d'acquérir les compétences nécessaires au poste convoité. Vous pourriez, par exemple, suivre des formations, obtenir des certifications ou participer à des projets particuliers qui vous permettront de démontrer votre valeur ajoutée et votre engagement. En adoptant une approche proactive et en travaillant de manière continue sur votre développement professionnel, vous augmenterez vos chances de succès. Prenez les devants. La prochaine fois que vous désirerez accéder à un poste, assurez-vous de manifester votre intérêt et de discuter de votre candidature tôt dans le processus. Ne présumez pas que votre employeur privilégiera un recrutement interne. Pensez à positionner vos résultats pour augmenter votre visibilité au sein de votre organisation. Assurez-vous que vos réalisations sont bien documentées et mises en avant lors de rencontres. Surtout, présentez le tout en fonction de ce que l'organisation aura à gagner en vous sélectionnant, au-delà des raisons pour lesquelles vous pensez être la bonne personne. En communiquant clairement vos aspirations professionnelles à votre gestionnaire, vous pourrez obtenir des conseils précieux et des recommandations sur la voie à suivre pour y parvenir. Vous aurez d'autres occasions. Gardez à l'esprit que le candidat retenu peut ne pas correspondre parfaitement aux attentes de l'organisation, ou il peut décider de quitter le poste, ou alors de nouveaux postes intéressants peuvent être créés ou encore se libérer. Votre attitude actuelle sera déterminante pour la suite de votre carrière. Une attitude positive et proactive témoignera de votre engagement et de votre respect des décisions prises et, qui sait, on pensera peut-être à vous pour un poste dont vous n'auriez même jamais rêvé. Enfin, prenez un pas de recul. Peut-être que ce poste particulier n'est pas fait pour vous ou que votre profil ne correspond pas aux ambitions de l'organisation et qu'il pourrait être plus bénéfique de chercher d'autres occasions qui correspondent mieux à vos compétences et à vos aspirations, que ce soit au sein de l'organisation ou non. Vous êtes l'employeur de Jérôme. En tant qu'employeur, la décision de ne pas attribuer un poste convoité à un employé et de recruter quelqu'un de l'externe peut être délicate. Comme je le disais en ouverture, cette décision repose souvent sur l'une des deux philosophies de gestion des talents suivantes, le développement et la promotion à l'interne et l'acquisition à l'externe. Le développement du talent implique une planification de la relève avec un cheminement de carrière clair vers les postes clés de l'organisation. Cette approche vise à identifier les hauts potentiels et à les préparer pour des rôles futurs en développant des compétences spécifiques en fonction des capacités organisationnelles requises. En plus de renforcer l'engagement, cette approche permet une continuité et une transition en douceur. Elle permet aussi de nommer une personne qui comprend déjà l'organisation, ses défis et ses besoins. Cependant, il arrive que les besoins de l'organisation ne correspondent pas aux compétences des employés actuels ou que le potentiel de ceux-ci soit limité. Dans ce cas, il peut être nécessaire de recruter à l'externe pour apporter une vision nouvelle et une expérience complémentaire et ainsi remettre en question les façons de faire pour stimuler l'innovation. Bien que de nombreux candidats externes présentent une expérience de pointe, le coût d'acquisition pour l'organisation est souvent plus élevé. De plus, il existe un risque de choc culturel entre le nouvel employé et l'organisation, et l'intégration sera nécessairement beaucoup plus longue. L'arrivée d'une recrue peut susciter des inquiétudes, des mécontentements et un désengagement parmi les employés, surtout chez ceux qui espéraient obtenir le poste. Il est donc essentiel d'expliquer clairement la décision et de bien faire comprendre à votre équipe qu'elle a été prise dans l'intérêt de l'entreprise, et donc de tous, et non à l'encontre des personnes actuellement en poste. Une communication transparente et empathique peut aider à atténuer les frustrations et à maintenir la motivation des employés. Les besoins en talent, notamment au niveau de la relève des postes de gestion, doivent se planifier de manière structurée, car la marge d'erreur des organisations en la matière est mince. Une approche équilibrée et intentionnelle entre le développement interne et l'acquisition externe du talent permet de tirer parti des deux philosophies, de répondre aux besoins immédiats de l'organisation, tout en préparant ses employés pour le prochain défi. C'était « Vivre avec la déception d'une promotion ratée », un texte de France Dufresne, paru le 15 octobre 2024 dans la presse.
Trois sœurs en parfait accord. Un texte d'Isabelle Morin paru le 5 octobre 2024 dans la presse. Que sont les trois sœurs? L'expression désigne une méthode de culture dans laquelle un trio de plantes, le maïs, le haricot et la courge, poussent en symbiose. Le maïs sert de tuteur aux haricots grimpants, ces derniers enrichissent le terreau en azote, tandis que les courges couvrent le sol, limitant l'évaporation et la prolifération des mauvaises herbes. Vieux de plusieurs millénaires, ce système agricole durable permet de maximiser la récolte tout en minimisant l'entretien et en préservant la santé des sols. De la préhistoire à aujourd'hui. La culture des trois sœurs a été portée par les mouvements des peuples autochtones à travers leur migration, principalement par les Haudenosaunee, communément appelés Iroquois. La technique remonterait au Mexique et à la préhistoire, il y a de 5000 à 7000 ans. Elle aurait d'abord nourri les grandes civilisations Maya et Inca, avant de s'étendre au nord jusqu'aux régions des Grands Lacs, de la vallée du Mississippi et des Appalaches. Elle y a été raffinée par les peuples sédentaires de la famille iroquoienne et adoptée par celle des Algonquins qui étaient semi-sédentaires. Le versant spirituel. Plus qu'une technique de culture, les trois sœurs occupent une place importante dans la spiritualité de certaines nations autochtones. Considéré comme un don sacré de la terre, ce trio de plantes symbolise l'interdépendance et l'harmonie avec la nature. Les trois sœurs au Québec. Avant l'arrivée des Français, le territoire iroquoien s'étendait du sud du Québec autour de la vallée du Saint-Laurent jusqu'à l'ouest de l'État de New York. Il comprenait la région de la Baie-Georgienne jusqu'à Stadacone, aujourd'hui Québec, atteignant parfois le Saguenay à la frontière des terres Innues. Les Iroquois, Hurons, Wendat et Mohawk, échangeaient les trois sœurs avec des nations voisines, algonquiennes, Abénakis, Algonquins, Atikamek, Micmac et Innues, contre des produits issus de la chasse et de la pêche. Les Micmac y ajoutaient du poisson. Les Innues y mettaient du caribou. Du côté des Hurons-Wendat, on utilisait surtout le chevreuil ou l'orignal, donne en exemple l'entrepreneur Steve Gros-Louis de Wendake. Dans tous les cas, le nom Sagamité décrivait cette soupe repas consistante qui fut aussi adoptée par les premiers colons. Arrivés avec leur culture potagère, ces derniers y ont ajouté d'autres légumes et des céréales, notamment du chou, des carottes ou de l'orge, explique la consultante en nutrition internationale Marianne Lefebvre. Une combinaison nourrissante. L'ancêtre du maïs sucré était récolté au même moment que les haricots et les courges en octobre. Lorsqu'on les combine, ces trois aliments permettent d'obtenir un repas équilibré d'un point de vue nutritionnel. on va chercher des glucides complexes, dont des fibres, des protéines végétales, des vitamines et des minéraux, fait valoir Marianne Lefebvre. La sagamité, plat vital. La sagamité est l'incarnation de la trinité agricole. Cette soupe, épaisse et nourrissante, combinant le maïs, le haricot et la courge, était au cœur de l'alimentation des Iroquois et de certaines nations algonquiennes. On cuisinait la soupe, souvent l'unique repas de la journée, avec ce qu'on avait sous la main. Elle pouvait donc être enrichie de gibier, de poisson, de gras, de noix ou de fruits sauvages. Pour la rendre plus consistante, elle était parfois épaissie avec une farine de maïs. Elle est traditionnellement mangée avec la bannique, un pain sans levain typiquement autochtone. Vous écoutez « Trois sœurs en parfait accord », un texte d'Isabelle Morin, paru le 5 octobre 2024 dans La Presse. Quand l'identité passe par le ventre. D'une génération à l'autre, durant des millénaires. Le modèle agricole des trois sœurs s'est transmis chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord et a assuré leur subsistance. De ce trio de plantes ont découlé des recettes encore bien vivantes comme celle savoureuse de la sagamité. Lisanne Obomsawin est née d'une famille québécoise et abénaquise dans la communauté d'Odanak, dans le centre du Québec. Ma mère est anthropologue et a été directrice du musée des Abénakis pendant 25 ans. Mon père, qui est historien, en a été le conservateur. Aussi bien dire que je suis tombé dans la marmite de la culture et de l'histoire bébé, lance la chef cuisinière en évoquant ce lieu riche en savoir qu'elle qualifie de deuxième maison. C'est toutefois par le ventre qu'elle a choisi de transmettre ses origines. Diplômée en gestion de cuisine internationale, elle a ouvert Kebenakis, son service de traiteur à saveur autochtone, en 2011. À mes débuts, les gens pensaient encore que notre cuisine se limitait au castor séché. J'avais envie de l'actualiser, de l'élever à un autre niveau, en y apportant un côté gastronomique et fusion. Les choses ont toutefois évolué ces dernières années, observe-t-elle. On s'intéresse davantage à la culture autochtone et par le fait même à sa cuisine. C'est dans ce contexte que la chef a eu envie de faire découvrir les plats traditionnels aux saveurs d'autrefois qui lui ont été transmis à l'oral par les anciens d'Odanak. Au menu de Kebenakis figure la sagamité qui met à l'honneur la courge, le maïs et le haricot. Alimenter la culture. Chez les peuples iroquois, dont fait partie la nation Huron-Wendat, les trois sœurs ont nourri les estomacs autant que les contes et les légendes. En tant que peuple sédentaire, on était à la fois agriculteur, chasseur et trappeur. Ces activités ont malheureusement ralenti quand on a perdu nos terres, souligne l'entrepreneur Steve Gros-Louis, propriétaire des restaurants Sagamité de Wendake et de Québec, où l'on sert le plat éponyme en entrée, dans une version qui marie les trois sœurs au wapiti, au cerf haché et au bouillon de gibier. La culture de la Trinité, autrefois essentielle à l'alimentation, s'est dissipée depuis, dit-il, mais les recettes de sagamité circulent encore d'une génération à l'autre dans les foyers de la communauté de Wendake. C'est donc sans surprise si, au moment de nommer son premier restaurant avec sa partenaire, Niva Siwi, le nom de ce plat nourrissant et chaleureux s'est spontanément imposé. Du plus loin que je me souvienne, chaque famille avait sa recette. Dans ma communauté, je ne pense pas que ce soit perdu d'aucune façon, bien au contraire. La sagamité, c'est un plat qu'on sert à notre traditionnel powwow et qui est de toutes les fêtes. On en est fier, dit Steve Gros-Louis, propriétaire des restaurants Sagamité. Les saveurs évoluent, mais l'essentiel perdure. Si on pouvait jadis trouver un morceau d'ours, de marmotte ou de corneille dans les marmites de terre cuite servant à la préparation de ce plat quotidien, on marie aujourd'hui aux trois sœurs des produits du commerce et des viandes d'élevage, déplore Steve Gros-Louis, en signalant la perte d'une diversité, d'une autonomie et d'un mode de vie, tout en relevant les avantages d'une certaine évolution au passage. Il est possible qu'on trouve que notre truite fumée à l'ancienne manquait d'un peu de goût. Aujourd'hui, on dispose d'essence, d'huile et d'épices qui nous aident à élever notre nourriture à un autre niveau. Sa recette familiale de sagamité a d'ailleurs été travaillée par son chef afin d'y ajouter plus de saveur. Elle a meilleur goût, mais ça reste tout de même un plat traditionnel. C'est parfois ça aussi, l'évolution d'un peuple. La cuisine évolue, mais les bases restent. Des saveurs qui rassemblent. Quand il a ouvert son premier restaurant sagamité à Wendake, en 1999, Steve Gros-Louis était un pionnier. Pour démystifier la cuisine autochtone et rassurer la clientèle, il gardait alors les cuisines ouvertes. Il fallait encore prouver qu'on n'allait pas chasser le gibier dans le bois avant de le mettre dans l'assiette, note-t-il. Il était alors loin de penser qu'il pourrait un jour ouvrir une autre enseigne en plein cœur du Vieux-Québec. L'autochtonie a une meilleure visibilité présentement, constate-t-il. Elle redonne une visibilité à une cuisine qui enrichit le patrimoine culinaire du Québec. Le 23 octobre 2024, Lisanne Obomsawin ouvre son répertoire culinaire à un large public avec la publication de son premier livre de recettes « Cuisine autochtone, saveurs et savoir-faire d'hier à aujourd'hui ». À sa table, remarque la chef, la nourriture devient généralement prétexte à poser des questions qui débordent du contenu de l'assiette. Autour d'un plat, la discussion s'anime d'abord au sujet des saveurs pour migrer vers la politique. L'échange s'enrichit et la rencontre aussi. Pour moi, la cuisine est un vecteur, un pont nécessaire à la réconciliation parce que tout le monde mange. Ça nous fait un point commun en partant. C'était « Trois sœurs en parfait accord », un texte d'Isabelle Morin, paru le 5 octobre 2024 dans La Presse.